c'est la boîte à musique.
Bonjour, c'est Anne sur Altitude FM. Venez avec moi à la découverte d'un compositeur de l'époque romantique. Connaissez-vous cet air ? Un homme sent la présence d'une femme magnifique qui évolue parmi la foule des danseurs. Avec les arrêts de la musique, on sent qu'elle se cache, qu'elle disparaît. Et elle réapparaît furtivement, tel un fantôme. On le sent avec les ralentis. Et c'est la harpe qui joue ce rôle. Puis on entend la reprise de la course et de la valse. Berlioz est né en 1803 en Isère et meurt à Paris en 1869. Peu apprécié en France de son vivant, il se sentait incompris et il en souffrait. Incompris, il l'était déjà enfant, car ses parents n'étaient pas musiciens et il les destinait à la carrière de médecin, comme son père. D'ailleurs, c'est son père qui a introduit l'acupuncture en France. Et il n'était pas du tout enclin à ses études, il les a fait bien obligés. Il ne s'intéressait qu'à la musique. Sa première émotion musicale, il l'a eue très jeune, lors de sa première communion à l'église, en écoutant l'opéra « Nina ou la folle par amour », dans une adaptation religieuse, bien sûr. Abandonnant ses études de médecine aux grandes dames de son père, il prend des leçons de musique. Et pour les payer, il se fait journaliste dans la presse musicale. Je vais vous montrer que Berlioz était un grand romantique, un mal-aimé, brûlant de passion, un novateur mal compris dans son pays, mais considéré comme un génie en Allemagne et en Russie. Son chef-d'œuvre, la Symphonie fantastique, lui fut inspiré par l'amour non partagé pour une femme, une actrice irlandaise, qui l'a ébloui en jouant Ophélie dans Hamlet de Shakespeare. Berlioz a alors 23 ans. Nous sommes en 1827. La première de la Symphonie fantastique a lieu en 1830. Or, la femme aimée assistait à la représentation. Il se met à ses genoux. Elle cède enfin à ses avances. Il se marie l'année suivante. Berlioz est convaincu que la musique et l'amour sont les deux ailes de l'âme. C'est un grand amoureux et un grand audacieux aussi. Ce qui fait qu'il est très critiqué et caricaturé dans la presse. Dessiné tout échevelé au milieu d'un orchestre, d'où ressortent surtout les instruments percussifs, tambours et trompettes. En effet, il innove en mariant ses instruments avec les cordes. Il est d'ailleurs considéré comme le fondateur de l'orchestre moderne. Prenons l'exemple de l'ouverture du carnaval romain. On assiste à une course précipitée entre les instruments à cordes et les instruments percussifs, cymbales et tambourins. On passe de la mélodie romantique, tendre, la musique se fait douce, à un tourbillon déchaîné, la puissance des cuivres s'élève. Cette alternance évoque le conflit intérieur de cette âme tourmentée, entre tendresse et révolte, car il ne reçoit rien en retour. Les concerts en tant que chef d'orchestre, dans des lieux parfois insolites, comme le Cirque Olympique pour l'exposition des produits de l'industrie, ou dans la gare de Lille pour l'inauguration de cette gare en juin 1846, pour laquelle il a créé un chant des chemins de fer. C'est un air pour ténor solo, chœur et orchestre. Il faut encourager l'industrie, c'est une idée nouvelle, nous sommes dans l'industrialisation. Il dit « Les merveilles de l'industrie, nous les témoins, il faut les chanter ». La paix, le roi, l'ouvrier, la patrie et le commerce et ses bienfaits. L'ancien monde n'est plus à la page, on entre dans la modernité. Ce sont les idées de Saint-Simon qu'il retrace ici. Il faut travailler, produire pour être utile à la société et non plus vivre de ses rentes comme l'ancienne aristocratie le faisait. C'est ce qu'il dit dans sa fameuse parabole, datée de 1819, qui promeut le mérite et critique les positions acquises par héritage. Berlioz était donc saint-simonien, mais il était aussi un compositeur de musique sacrée. En 1837, l'État français lui commande un requiem. Il le fait jouer aux Invalides devant les ministres, les députés, la presse. C'est un événement considérable. Et pourtant, dès l'année suivante, en 1838, son opéra, auquel il avait mis tout son amour, Benvenuto Cellini, est mal reçu. Pour se moquer de lui, on parlait de l'opéra Malvenuto. En fait, c'est que le sujet n'est pas compris du public. Il s'agit du sculpteur Benvenuto Cellini, le célèbre artiste florentin, dont Berlioz admire les statues, qui se pose des questions face à son œuvre. Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est plutôt un opéra engagé, car on peut y entendre les cantates des ouvriers en grève. Il se moque aussi dans cet opéra du pouvoir de l'Église. On peut se poser du coup la question, quelles sont ses idées politiques ? En 1830, il était parmi les révolutionnaires des Trois Glorieuses. Il se mêle aux insurgés. Mais en 1848, il a bien changé. Alors là, il fulmine contre le choléra républicain. Il a peur du désordre. C'est un homme qui aime le pouvoir fort. Il est moderne, il choque le public, habitué à une phase uniforme. Lui, il change de registre au moment où on s'y attend le moins. Il recourt aussi à tous les registres du langage, du plus noble au plus populaire. Et le public qui aimait Shakespeare devrait comprendre cela, parce que Shakespeare joue aussi avec le langage comme cela. Mais Berlioz est très surprenant, il ne plaît pas au public français. Devant ce peu de succès, il part en voyage à travers l'Europe, sur les conseils de ses amis écrivains, dans les années 1840. En Allemagne, il retrouve ses amis, Mendelssohn, Schumann. Il revoit Wagner. Il découvre les paysages romantiques de l'Allemagne, les rives escarpées du Rhin, ses vieux châteaux en ruine, les paysages de la Lorelei. Tout en voyageant, il compose la Damnation de Faust, en 1846. Voilà ce qu'il disait. « Je l'écrivais quand je pouvais, et où je pouvais, en voiture, en chemin de fer, sur le bateau à vapeur, et même dans les villes, malgré les soins divers auxquels m'obligeaient les concerts que j'avais à y donner. » Cette œuvre lui est inspirée par les légendes du Moyen-Âge, très à la mode en ce milieu du XIXe. C'est un thème romantique qui a été remis au goût du jour par Goethe. Ici, il s'agit de l'histoire de Méphistophélès, le diable, à qui Faust a vendu son âme, en échange de tout ce qu'il voulait ici-bas. Mais ce que voulait Faust par-dessus tout, c'était l'amour d'une femme. Or, ceci ne peut pas s'obtenir en claquant des doigts. La deuxième source d'inspiration de cette damnation de Faust, ce sont les idées libérales et nationales qui traversent toute l'Europe dans ces années 1840 et vont aboutir à une vague révolutionnaire qu'on appelle le Printemps des Peuples, en 1848. Faust contemple l'armée qui part au combat. Une fanfare parade avec ses cuivres, ses timbales, ses cymbales, mais on entend aussi le fifre. C'est une marche, la marche hongroise. L'œuvre reçoit un accueil délirant à Budapest, car là-bas vibre la fibre patriotique. La Hongrie rêve de se défaire de la domination de l'Autriche-Hongrie. Et Faust représente le héros national hongrois, Rákóczi. L'œuvre, par contre, en France, c'est un fiasco, un échec. L'orchestre joue devant une salle à moitié vide en décembre 1846. Le lendemain, les journaux ironisent. Berlioz est extrêmement déçu, amer. Il repart cette fois en Russie, sur les conseils de Balzac, qui lui prête même sa pelisse pour traverser l'Europe enneigée. Il arrive à Saint-Pétersbourg en février 1847. et il y rencontre le succès, tout comme à Moscou, où il est considéré comme un novateur visionnaire. Ainsi, il inspire Prokofiev, Stravinsky, qui aime ses rythmes, son timbre, le son brut qu'il emploie et l'ampleur de sa mélodie. Quant à Moussorgski, il meurt avec le traité d'instrumentation et d'orchestration de Berlioz à son chevet. Car Berlioz est aussi un théoricien de la musique. Il a même écrit sur une cité utopique, Euphonia, où tout le monde serait musicien, mais gouverné par un pouvoir autoritaire. Il rédige ses mémoires, dans lesquelles il évoque ses nombreuses déconvenues. Il dit par exemple « Le directeur de l'Opéra de Paris me regardait comme une espèce de fou, dont la musique n'était et ne pouvait être qu'un tissu d'extravagance. » Berlioz s'inspire aussi des romans d'aventure, des pirates, comme dans son œuvre « Le Corsaire ». Sur le port de Nice, il lit « Le Corsaire rouge » de Fenimore Cooper, l'auteur fameux du dernier des Mohicans. Il raconte alors la vie à bord d'un navire de pirates, avec la mer calme au départ. Et on ne tarde pas à entendre le tourbillon des éléments déchaînés. Le déchaînement, c'est un thème qui revient souvent dans l'œuvre de Berlioz. Ici, dans le songe d'une nuit de sabbat, qui fait partie de la symphonie fantastique, nous allons entendre les effets sonores qu'il créait. Il place le hautbois en coulisses pour donner un effet feutré, lointain, mystérieux. Et ce hautbois répond à un cor anglais. Ces deux instruments figurent deux bergers qui dialoguent d'une montagne à l'autre. Les sorcières apparaissent, elles dansent, c'est leur sabbat. Elles se moquent de lui. Tout comme sa bien-aimée qui le fuit. Elle est représentée par la clarinette, qui revient régulièrement. C'est le leitmotiv. On appelait alors ce leitmotiv idée fixe. Elle représente la femme, mais les forces maléfiques le cernent. On entend des cloches, employées pour dire la colère de Dieu. Et les cloches ne sont pas un instrument, donc on va le lui reprocher.
Thank you.
On lui reproche en effet de faire du bruit, du fracas dans son œuvre. Mais dans l'actualité de l'époque, on retiendra deux exemples fameux de bruit et de fracas, comme si cela faisait écho à son œuvre. En 1854, par exemple, on assiste à la bataille de Baklava en Crimée. Les Anglais se battent contre les Russes. C'est une bataille héroïque, donc romantique, qui inspire beaucoup. Il s'agit du comte de Cardigan, qui conduit sa brigade légère droit sur l'artillerie russe, par erreur. Les pertes sont très lourdes, mais la victoire est au rendez-vous, car l'unité anglaise réussit à repousser l'ennemi russe. Cardigan fait alors entrer ses hommes dans l'histoire. Mais la Russie persiste à convoiter la Crimée, jusqu'à l'annexer en 2014, prélude à son invasion de l'Ukraine en 2022. En 1866, Alfred Nobel invente la dynamite. Ce savant suédois, également marchand d'armes, laisse sa fortune immense pour financer le prix qui porte son nom. Il est décerné dans 6 catégories, économie, physique, chimie, médecine, littérature et paix. Le prix Nobel de la paix a été décerné dernièrement, en octobre 2023, à la militante iranienne Narges Mohammadi, emprisonnée pour son combat contre l'oppression des femmes. L'œuvre de la fin de la vie de Berlioz, Les Troyens, est inspirée de l'Énéide de Virgile, qui l'avait lu enfant. Elle est jouée partout en Europe dans les années 1989-1990, au moment où l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest se réunifient. Car le mur est tombé, tout un symbole. Énée est le fondateur d'un monde nouveau, de l'Italie. Cassandre qui prédit l'avenir mais que l'on n'écoute pas, c'est un peu lui. À moins que l'on ne le reconnaisse dans le héros Hector, dont il porte le nom. Victime d'Achille. La tragédie grecque reflète la tragédie romantique qu'il vit. Berlioz a aussi créé la mélodie française. Il met en scène des poèmes de Théophile Gautier, comme Les Nuits d'été. Écoutons la Villanelle, chantée ici par Véronique Gens. Quelle est sa postérité? Aujourd'hui, son génie est largement reconnu. Sa ville natale, la Côte-Saint-André en Isère, organise tous les ans un festival Berlioz. Et c'est d'ailleurs lui qui a inventé le concept de festival. On trouve Berlioz un peu partout. Il était présent sur les derniers billets de 10 francs. Un des chatons porte son nom dans les Aristochats de Walt Disney. Dans le film Intouchable, la première question du malade Philippe à Omar Sy lors de son recrutement est « Connaissez-vous Berlioz ?»« Oui, c'est dans une pub, non ?» De ce génie mal aimé, on retiendra quant à nous ses audaces musicales, qui nous semblent être un écho à son âme tourmentée, un écho de ses passions non assouvies, en un mot, de son romantisme. Je vous donne rendez-vous sur Altitude FM tous les troisièmes jeudis du mois à 17h.